à tous et nous sommes le 9 octobre 2021, une date à marquer dans les annales puisque le Cercle Aliénor reprend enfin ses activités. Ça fait donc un an que nous ne nous sommes pas revus à ce premier étage de l'IP. Et ça fait quasiment la séance d'octobre 2020 étant une séance un peu erratique depuis le dernier mois de mars 2020. Donc c'est du soulagement, une forme de joie de nous revoir, de nous retrouver enfin dans des têtes amicales et qu'on espérait revoir. C'est aussi beaucoup d'émotions, puisque certains d'entre nous nous ont quittés entre-temps, en particulier notre ami Guy Chatti, à qui nous tenions fortement à rendre hommage depuis son décès. Alors, c'est un grand ami de Guy, Benjamin Chinour, qui est, Jeanne le confirme, sans doute celui qui connaît le mieux son œuvre, qui a accepté de venir parler aujourd'hui de Guy. Et je remercie tout spécialement Benjamin parce que pour sa constance, la conférence que nous envisagions, la présentation que nous envisagions, n'ayant pas été remise moins de 3 fois. Donc nous y sommes enfin. Et avant de lui laisser la parole, je voudrais dire quelques mots sur lui. Sa discrétion en souffrira, mais j'y tiens. Alors Benjamin, vous êtes né il y a une cinquantaine d'années. Vous avez, après un DEA de lettres modernes et un master 2 de littérature générale et comparée, fait une licence professionnelle à Sancier-d'Aubenton. Vous vivez et travaillez en banlieue parisienne et vous avez d'abord travaillé en tant qu'écrivain public dans un centre communal d'action sociale. Et après ce beau travail d'écrivain public, vous êtes maintenant dans une MDPH, une maison pour personnes handicapées. Voilà. Donc, voilà votre vie. À côté de ça, vous écrivez, vous avez un grand intérêt pour la littérature et la poésie. Quelques-uns de vos textes sont parus en revue ou sous forme de plaquettes. Et je cite en particulier un premier recueil publié par Intervention à haute voix en mars 2015, sous pseudonyme, qui s'intitule « Détails d'intérieur ». Vous êtes relecteur pour la revue Poésie Première et vous rédigez aussi des recensions sur les auteurs contemporains. Je dois aussi dire que vous dirigez 2 ou 3 numéros thématiques pour le compte de la revue Intervention à haute voix. Et depuis 2006, vous êtes trésorier de la Société des lecteurs de Georges Hiverneau. Vous ne l'êtes plus, bon, mais vous l'avez été, et je tenais à le mentionner parce que c'est précisément autour de Georges Hiverneau que vous avez rencontré Guy Chatti, et je sais par Jeanne que vous rencontriez Guy de façon très régulière et que vous entreteniez avec lui des liens d'amitié très, très solides. Voilà, donc un immense merci et je vous laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Guy Chatti, un homme qui marche. À travers ce titre, vous l'avez compris, nous voulons parler de l'homme qui marche et non du poète à pied, un versificateur en voie de disparition qui compte ses syllabes, lime ses allitérations, chausse des métaphores. Guy Chatti n'écrivait pas pour la forme, ni pour le vernis stylistique. Sa poésie n'était pas mue par le plaisir de faire des phrases ou de faire beau, d'avoir le statut de poète ou de briguer des prix littéraires, prix dont il fut rarement destinataire d'ailleurs, hormis pour « À cheval sur la lune ». Ce prix, lire et faire lire, Printemps des poètes, lui fut décerné en 2014. Autre autrement dit bien tard. Pour autant, sa longévité en tant qu'artiste et l'originalité de son œuvre, saluée par de nombreux congénères, mérite d'être soulignée. Son travail ne compte pas moins d'une vingtaine de recueils, un DVD, un CD, des partenariats avec des illustrateurs, des traducteurs, Werner Rosat en allemand, des photographes, des musiciens, des artistes divers, notamment grâce à la responsable des éditions Transignum, Madame Wanda Miluak. Mais voir un de ses recueils ou une série de ses livres primés l'intéressait-il vraiment ? N'avait-il pas trop attendu cette consécration ? Il organisa aussi des événements autour de la poésie, fut un lecteur attentif et infatigable de recueils qu'il recensait, prêt à la main dans les salons poétiques. Depuis son décès, plusieurs revues, Décharges, Verso, Poésie Première, Poésie sur scène, IHV, lui rendent hommage. Les collègues d'université manifestent aussi leur sympathie et leur reconnaissance. La présentation d'aujourd'hui vise, comme bien d'autres l'ont déjà fait avant et bien mieux que nous, à ne pas oublier trop vite cet homme attachant, talentueux et généreux qu'il fut. Nous nous sommes reconnaissants à l'égard de leur organisateur, Madame Béatrice Marchal, et du cercle Aliénor, ainsi que du personnel de la brasserie LIP, qui concourt à notre bien-être de nous permettre de le faire aujourd'hui. Deux anecdotes. Au sens propre, Guy marchait bien. Alors qu'il avait 80 ans passés, nous avions effectué d'une seule traite le trajet du café Le Mistral, situé à Châtelet, jusqu'au marché d'Aligre. Lors d'une de ses entrevues parisiennes, il nous avait aussi confié, j'ouvre les guillemets, « Je ne me sens pas bien si je n'écris pas un peu chaque jour. » À travers cet homme en mouvement, il s'agira... d'évoquer aussi ce contemporain qui regarde le monde, s'observe et nous offre le fruit de ses réflexions. Dans un récit qui a nécessité une vingtaine d'années de travail, Les espaces perdus d'Antoine, Guy Chatty retrace l'évolution d'un enfant jusqu'à l'âge adulte. L'auteur s'initie à la vie sous toutes ses formes, l'existence sans paître, l'effervescence urbaine, l'amour, la religion. Puis un jour, au coin d'une rue, de retour à la maison, il réalise son appartenance à la grande chaîne humaine et conçoit le caractère unique de son existence. Ouvrons les guillemets. Pour la première fois, depuis que le monde est monde, mon moi a pris corps. Ce moi qui attendait quelque part, certainement depuis toujours, s'est décidé. Il est venu s'installer dans ce corps, un jour précis, dans un lieu donné. N'est-ce pas réconfortant, merveilleux et terrible ? Page 69. Antoine, le narrateur, va même jusqu'à s'interroger l'avant-vie, celle qui précède le premier cri du tout-petit, et la pré-vie du moribond qui a rendu son dernier souffle. Ouvrons les guillemets. « Savais-je que j'existerais avant de naître ? Saurais-je que j'ai existé lorsque je serai mort ?» Dans les lignes qui suivent cette découverte, il s'interroge sur l'existence d'un dieu protecteur et interventionniste. Mais surtout, Antoine relate qu'au cours d'une nuit très noire, il fait brutalement l'expérience d'une forme d'inconsistance, de la dureté, de la fragilité de la matière brute, vivante, en mouvement. Il s'agit des pierres molles. Plus fort, d'accord. Il s'agit des pierres molles. À vous de jouer, Jean-François.
Les pierres molles. Nuit très noire. Antoine traverse la cour. Tout à coup, il sent un corps dur s'écraser sur son pied droit. Il s'étonne, loin dans la conscience de la fragilité de certaines pierres. La sensation vague qu'il a d'une étrangeté ambiante s'accroît lorsqu'il repose le pied. Il a l'impression que quelque chose est collé dessous. Machinalement, il gratte sa chaussure comme contre une pierre proche. Peut-être la fin du ciment de la cour, cédant la place au jardin. Puis il fait deux ou trois pas, écrasant encore quelques pierres. Jusqu'ici, tout a été ressenti plus ou moins consciemment. Et il a du mal par la suite à reconstituer les étapes de ses impressions. Il se retourne et regarde autour de lui pour s'assurer que le monde est normal. Jonche le sol quelques petits objets. Sans doute a-t-il marché sur certains d'entre eux avec un peu de colère et de mépris. Il envoie du pied rouler quelques-unes de ces pierres molles. Puis, il s'efforce de les examiner mieux, autant que le permet l'obscurité, à laquelle d'ailleurs ses yeux se sont un peu adaptés. Les pierres sont nombreuses autour de ses pieds, d'un aspect bizarre pour ces pierres. Son regard erre parmi elles, jusqu'à toucher dans un mouvement aléatoire un pot de grès qui se trouve à proximité. Antoine reconnaît ce pot. La lumière et l'horreur éclairent ensemble son esprit. Dans ce pot, il y avait des escargots que son frère conservait et soignait avec attention. Ils ont réussi à soulever le couvercle et à s'échapper. Des petits corps immobiles et glacés gisent maintenant, ça et là. Antoine imagine la bouillie de chair et d'écailles. Les ombres sont figées et même les silhouettes des corps encore en vie semblent mortes. Une stupeur a frappé ce monde en fuite. Dans un dernier effort, Antoine a le courage morbide de regarder une forme démesurément allongée, gâchis gluant, d'où émergent à l'une des extrémités deux cornes dérisoires. Au matin clair, il y a curieusement peu de traces du carnage. Les rescapés ont regagné les herbes. La prison est vide.
Ouvrons une parenthèse. Guy Chatti est l'auteur de L'âme des pierres, sorte de promenade dans différents endroits de Paris, en quête de statues d'animaux, de personnages nus et ou mythiques. En effet, sous nos yeux distraits de passants ou de conducteurs pressés, des scènes d'un autre âge, pierres sculptées par la main de l'homme, émouvantes, pudiques, violentes ou pleines de contradictions, se déroulent. À moins que ce ne soit l'inverse et que la statue tourne le dos aux passants. Noir.
Solide comme la pierre noire, les bras sur les genoux, la tête sur les bras, indifférente, elle s'expose au regard, l'ombre assise cache la naissance. Ignorer à ce point le désir qui tourne jour et nuit autour d'elle.
Étrange donc, cette pierre coquille qui ne fait pas trébucher mais se laisse écraser. Effrayant et actuel, cette puissance, alors que l'ennemi envahit la France et qu'il piétine sous sa botte des territoires. Ouvrons les guillemets. Il fait noir encore. C'est fou ce qu'il peut faire noir souvent sur cette terre, s'exclame Antoine. De nombreuses chutes à pied parsèment aussi le récit et la perspective de tomber l'immobilise, le fige. Le doute semble ne plus le quitter. Les premiers textes de Guy Chatti contiennent déjà ses poches d'incertitude. Ne plus savoir quelle direction prendre, quel sens donner à sa vie. Je ne sais pas. Extrait de J'ai laissé mourir le soir, son premier recueil de poésie paru en 1979 aux éditions Saint-Germain-des-Prés. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez bien faire dans la vie ? Oh, je ne sais pas, accueillir les gens à la descente des trains, accompagner mes amis à la gare, leur dire au revoir avec un geste tendre de la main. Je ne sais pas, faire rire les copains autour des tables de repas, parler à ceux qui me plaisent en faisant des grimaces pour les amuser, en disant des choses intéressantes qui les fascinent et les enchantent, les séduisent et les obligent à m'aimer. À me prendre la main, à dire « on se revoit quand ? Vite, j'espère ». Je ne sais pas, avoir un métier. Tiens, il connaît bien son métier. Être un spécialiste de, je ne sais pas, être heureux sur la plage, conduire un avion, jouer de la musique, caresser des Vénus authentiques. Être un compositeur connu, un génie méconnu. Ce ne sont pas des métiers. Je ne sais pas, chanter dans une chorale, faire la révolution, être ministre de l'éducation, être bien dans ma peau. Ce n'est pas un métier. Avoir beaucoup d'enfants, puis me marier, et avoir beaucoup de femmes, ne pas être sérieux avec les gens tristes, être triste avec les gens heureux, manger des spaghettis à la sauce bolognaise, et des crêpes aux fruits de mer, être garçon de café arrogant, général sorti du rang ou des grandes écoles, docteur en médecine, infirmière, faire un travail utile, dormir avec plaisir, jouer la comédie, je ne sais pas, être père et mère, fils, oncle, tante, être en voyage, je ne sais pas. Avoir de la suite dans les idées, finir ce que j'ai commencé, faire tout le temps la même chose, mais pas à la même heure, et pas la même chose. Peigner la girafe, garder les moutons le soir, sous les étoiles, faire du cheval, du ski, du bateau à voile autour des îles grecques, aller dans la lune, jouer aux échecs, voir Naples, ne pas mourir, croquer des enfants au rire clair, je ne sais pas. fois, l'espace semble l'absorber par son immensité. L'infini, celui qu'on touche simplement des yeux, c'est une expression de lui. Pas celui des formules mathématiques et des machines, ni celui des laboratoires ou des observatoires, lui paraît plus passionnant que le bout de ses orteils. Ouvrons les guillemets. Le soleil est au zénith, il n'a plus qu'à redescendre. Je m'assois pour voir mes pieds de près, ils disparaissent tellement dans ce paysage grandiose. Ces quelques lignes sont extraites du poème La Margelle dans un recueil au jour le jour et quand le sentiment sourd chez Intervention à haute voix en 1986. Malgré cet accent mis sur ce qui se dérobe, échappe, ses apparences faussement solides, Guichati approfondit ses convictions. Non seulement il fait preuve de respect pour les vivants, mais il les protège, notamment les plus faibles. Une vie sans peau, à fleur de peau.
Une vie sans peau. Ce ne serait pas la vie ordinaire d'un être barricadé derrière sa peau, qui cherche sa nourriture à l'extérieur au besoin en dévorant un être d'une autre espèce. On extrait l'essentiel et rejette les déchets dans ce même extérieur. Ce serait la vie sans limite, entièrement libre, autonome, qui n'aurait pas besoin des autres pour survivre, qui flotterait comme une ombre à la frontière incertaine. L'égoïsme fondamental et triomphant n'a pas d'avenir.
Le souci de l'environnement, les questions de la pollution galopante et de l'urbanisation outrancière, les dérives du progrès lui inspirent une lutte sans relâche contre la bêtise, le profit, l'injustice. Ses préoccupations traversent ses recueils, notamment Parcours, En cruel, Le choc du clic, jusqu'à Fleur de peau, son dernier livre. L'auteur, né sous des climats cléments et conscient d'être à distance de certains mots, sait montrer sa gratitude et assume le décalage.
Il est des pays et des montagnes rocheuses des lointains où je n'ai pas marché, et des terres d'Asie, des tiers où ils n'ont pas mangé.
Voilà, ce texte est tiré d'un recueil qui s'appelle Parcours et après dans un autre recueil qui s'appelle Mes navires. Peut-on établir une comparaison entre terre inexplorée et besoins primaires inassouvis, entre marcher en touriste et ne pas manger à sa faim, sans friser le scandale et pointer les disproportions selon l'endroit où on grandit sur terre? En plus d'être un recueil sur la séduction et l'amour entre un homme et une femme, Amour de jardin est un hymne à la nature et à la floraison. Un homme tombe sous le charme d'une femme. Le 26 juin 2001, le couple s'installe dans une maison de campagne. Il reste dans le jardin enchanté, un Éden coloré et parfumé. La découverte des lieux se fait pas à pas, comme celle que deux êtres inconnus l'un pour l'autre mènent lorsqu'ils se plaisent. Sentiments et états d'intérieur évoluent ainsi au fil des saisons. Mélancolie en automne et promenade vivifiante, méditation hivernale jusqu'à la poussée des personnages, retour du printemps et une nuit plus courte. Le récit se clôt par où il a commencé, l'aventure amoureuse, fusionnelle, malgré les tensions, les hésitations, la solitude, s'est concrétisée en relation durable. Le jardin recèle son lot de promesses à venir, de pousses à cultiver, avant de s'ouvrir aux amis. 2004, dans Amour de jardin, donc aux éditions Raffia, en 2008. C'est un petit passage. Nous ne comptons plus les crocus innombrables. Le grand sapin isolé qui faisait trop d'ombre et le pommier trop de pommes acides sont coupés. Le voisin mitoyen est content, il profite de cette éclaircie. Après sa disparition, le pommier survit. Tenace, il se manifeste par de multiples rejetons autour de sa souche, à bonne distance même, qui font des taches vert clair sur la pelouse rustique. En mai, les iris refleurissent comme prévu après leur séparation. Les vieux lilas du centre sont rajeunis par une coupe qui ne laisse que les jeunes pousses. Dans l'espace urbain, Guichati soulève la question de la survie des espèces animales mais aussi végétales. Comment trouver sa place quand, j'ouvre les guillemets, type d'espace vert parisien désigne des passages cloutés et une signalisation au sol écaillé. c'est dans le choc du clic, un livre de photographie et de qui a été illustré aussi par Guichati. Enfin, les textes sont de Guichati et les photos de. J'ai oublié son prénom, mais c'est. Voilà, c'est ça, merci. N'est-ce pas vivre sous la dictature du bitume ? Pour autant, la simple présence de l'arbre devrait être une manière de remettre en question l'hérite des hommes. L'homme, debout toute sa vie, meurt et demeure à l'horizontale pour l'éternité. Mais qu'en est-il de l'arbre ? Mon arbuste. Mon arbre est mort. Je l'ai enterré. Debout, comme un arbre. C'est tiré de Mes navires, donc anthologie de poèmes courts, qu'on a déjà cité. Et qui est paru entre 1979 et 2010. Donc, ce sont des textes brefs qui s'inspirent de la nature. Et cette nature qui devient elle-même un sujet de méditation sur l'existence et ses mystères. Donc je vous laisse la parole pour suspension. Voilà.
Soulure.
Ou soulure, mais c'est ça, soulure. Ouais, c'est...
Soulure. Le soleil rouge de honte pour la terre tout le jour, de colère impuissant, se cache la nuit, puis reparaît le matin, lavé des souillures, blanc lumineux prêt à replonger dans l'immonde.
Cher avec civilisation, roulent les dredons de la mer, s'affolent et s'accrochent aux buissons d'épines, et les plumes, comme une écume folle, volent au-dessus des déchets.
Guichati prend aussi la défense des animaux à travers ses écrits. Nous dirions qu'ils s'insurgent contre leur mauvais traitement. Ils apparaissent dans des fables aux allures parodiques. Ainsi trouve-t-on dans ses textes taureaux, hirondelles, chats, loups, lions, agneaux, ânes, merlettes, passereaux. Les animaux y sont parfois personnifiés afin de leur donner une parole, un statut, de les replacer dans les chaînes des êtres vivants. Ce procédé tend aussi à diminuer le pouvoir de l'homme. Dans le cadre d'une participation à la cause animale menée par Sylvaine Arabeau, animatrice de la revue Saraswati, et à l'heure où une frange d'intellectuels mène un combat pour faire reconnaître le droit des animaux, Isabelle de Fontenay et Boris Cyrulnik, en 2001, Guichati rédige un plaidoyer sous la forme d'un court texte accessible par voie dématérialisée. L'élevage des animaux par les hommes y est présenté comme une duperie. De ces exterminations modernes résulte entre autres la fabrication d'une farine animale, non-sens qui conduit au scandale de la vache folle, comme chacun sait. Et Guichati de souligner, ouvrons les guillemets, « L'homme a réussi la prouesse de fabriquer, à partir d'esclaves végétariens, non seulement des carnivores, mais des bovins phages. » Le néologisme souligne ici l'absurdité du projet, dont les conséquences touchent aussi ce consommateur omnivore et apprenti sorcier, l'homme. Par conséquent, la gente animalière est littéralement spoliée dans l'intérêt, à court terme, comme nous venons de le voir, de l'être humain. Ouvrons les guillemets. Les animaux, on leur a volé leur liberté, on leur a volé leur lait, on leur a volé leur miel, on leur a volé leur chair, on leur a volé leurs petits, on leur a volé leur sperme. Que leur reste-t-il ? En ville, l'oiseau tient bon, mais jusqu'à quand ? Ouvrons les guillemets. J'en suis réduit aux extrémités, songe un passereau posé sur le ton d'un arbuste coupé. C'est dans le choc du clic, le 22 février. D'une manière générale, l'oiseau apparaît comme désorienté, mais curieux. Il interroge l'environnement, suit le rythme des saisons. Les hirondelles.
Oh zut, ça recommence. On avait fait nos nids, les petits grandissaient. On était bien tranquilles sur nos fils. Voilà l'automne, faut qu'on reparte. Retrouver les pays chauds tellement loin. Si seulement l'été continuait ici, pas à voyager. Que les jeunes déménagent. Nous, les vieux, on est fatigués. On va s'installer dans un dessert chauffé. Ce sera nos maisons de repli. Je n'ai pas dit de retraite. Retraite provisoire, oui. Car à la belle saison, on reviendra dans nos nids. On élèvera nos petits, on recommencera sur nos fils la même musique, la même partition, en formant tous ensemble, sans fausse note, une belle portée.
Ce regard protecteur se pose aussi sur les hommes, leurs conditions de vie plus ou moins inégales. Dans une anthologie intitulée « Attention au travail » parue chez l'Harmattan en 2010, Guy Chatty met en lumière ce labeur incessant, ingrat, dangereux d'hommes réduits à l'état d'esclave afin de satisfaire notre consumérisme. Diamants sans noir. Ils étaient assis sur des richesses énormes qu'ils ignoraient debout sur une bombe qui explosa dans le silence de leur innocence. On les chassa de leur terre pour la transformer en cratère crasseux de mines, à cœur ouvert. Ils sont devenus esclaves de blancs, pataugeant dans la boue, grattant, pliant en deux la terre qui les avait nourris et maintenant les faisait mourir corps et âme dans cet enfer. Ignorant encore quel dieu ils servaient, ce veau, toujours debout, pour les grands prêtres du fric, posant sur la peau satinée des belles héritières, habillées par les nobles couturiers, ces pierres de carbone montées dans le sol de la Sierra Leone, et en cette Afrique pillée, diamant rouge du sang des Noirs. Nous retrouvons notre problématique présentée en début d'exposé. N'est-elle pas aussi celle des réfugiés ? Accueilli par Roland Husson, un ami de Guy Chatty et diplomate installé à Santiago du Chili lors de l'avènement de la dictature Pinochet le 11 septembre 1973. À la mort de Roland Husson en 2013, Guy Chatty me confie que son ami et sa femme, Susana Nunes, hébergent et abritent à l'époque environ 400 réfugiés chiliens dans l'ambassade de France de Santiago. Des sauf-conduits leur sont délivrés pour quitter le pays et Guy Chatty prend parfois le relais pour aider ces hommes et ces femmes une fois arrivés sur le sol français. Le Chilien, Oscar Castro, directeur du théâtre d'Aleph à Villejuif, lui ouvre aussi sa scène. Guy Chatty y lit ses textes, sa diction est claire, son économie de mouvement impressionnante. D'accord. Je l'ignorais. Guy Chatty est attaché aux questions de société. Il est préoccupé par l'avenir du monde et le fait savoir en traitant de sujets graves avec le sourire et l'humour qui le caractérisent. Dans la vie, il paie aussi de sa personne et soutient les mouvements contestataires, de syndicalistes, fait grève, manifeste dans la rue pour ses étudiants, se bat pour que les générations suivantes conservent quelques acquis. Dans son dernier recueil, à fleur de peau, le lecteur entre dans un univers sensible, un monde recouvert d'une fine pellicule, une sorte de moi-peau, parcheminé et servi par une écriture qui déride. Comme le suggère le titre et les trois parties du recueil, effleurement, meurtrissure, blessure, la sensibilité de l'auteur revêt une forme épidermique. Écorché et vif, à l'émotivité bien maîtrisée, Guy Chatty a le poil qui s'hérisse devant les injustices du monde, les comportements dictés par l'argent roi, le goût du lucre et la poursuite des intérêts personnels, les systèmes d'exploitation de l'homme par l'homme, les discours totalitaires. Et si la peau était le moyen de se relier les uns aux autres à travers la caresse, l'érotisme, le rire, les contacts affectueux, mais aussi la morsure, la griffure, plutôt que de crever seul de solitude dans son coin. Et la poésie dans tout ça ? Guy Chatty semble me poser la question. Qu'en est-il de la poésie au milieu de ces univers bureaucratiques, froids, aseptisés et sans faille du renseignement, dans ces royaumes du chiffre et de l'algorithme, où les hommes demeurent isolés les uns des autres et coupés d'eux-mêmes, de leurs émotions et de leurs sentiments ? Alors je vais vous lire CAO, c'est tiré de Phonème en folie, intervention à haute voix en 2008. CAO, caresse assistée par ordinateur, le logiciel du bonheur, qui vous envoie au septième ciel. Les palpeurs sont en place, le disque dur s'attendrit, vous déplacez la souris et vous sentez des mimis, presque là où il faut. CAO, c'est en haut, c'est en bas. Pas tout à fait au bon endroit, c'est plus haut, c'est plus bas. Y a-t-il un bug, non de là ? Il est prévu des ratages dans le massage pour vous mettre en haleine, faire monter le désir et avec lui le plaisir. Un audio capte vos plaintes, le système est à l'écoute du vôtre. Il apprend vos zones érogènes et les organise en zone mémoire pour mieux jouer avec vos attentes. Il saisit vos données, analyse vos accès basiques, vos boîtes noires, vos automates, le rythme de vos algorithmes, la courbe de vos régressions et les moulines en bits, en items. Il me compile, je me stimule, par la console je m'aime et par la même je me console. Et si cela ne vous convient, vous pourrez toujours, pour mieux vous faire connaître, envoyer la cassette de vos humeurs, le DVD de vos douleurs, enregistrer à votre agence pour trouver l'âme sœur, une souris au grand cœur. La poésie et l'humour sont-ils des moyens pour effectuer des percées dans une réalité intérieure complexe, angoissante, étrange ? Le recueil dans le jeu La Vie le rappelle dans son titre et sa thématique, cette présence du jeu dans notre quotidien, telle une possible liberté gagnée sur nous-mêmes, nos émotions, nos états. De même, le recueil Coup d'œil en coulisses contient des textes qui font allusion à la vie intérieure, celle des organes, des flux, mais aussi des humeurs, des fantasmes, des comportements parfois cachés, aux autres certes, mais à soi-même d'abord. Comment vivre avec nos êtres intérieurs ? Cette, j'ouvre les guillemets, assemblée des locataires de nuit, comme Guy Chatty les appelle. Dans Anatole et son chat, Guy Chatty cherche des réponses à cette question. Hanté par la maladie et la mort, Anatole voit son corps lui jouer des tours. Il tente alors d'ironiser sur ses douleurs, ses maux. Ses perturbations touchent à ses besoins fondamentaux. Puis Anatole retombe finalement sur ses pattes et les choses se remettent en place. Les deux mondes à vous.
Anatole voit le monde autour de lui. Un wagon de métro, des voyageurs assis, muets, bavards. D'autres oscillant sur leurs jambes en se tenant au poteau, ceux qui montent aux stations, d'autres qui descendent. Tout à coup, ce monde, qui lui semblait bien stable, se met à bouger. Il vacille, bascule, dérape. Les gens n'ont pas l'air de s'en apercevoir. Ils continuent à lire ou à parler, indifférents à ce qui se passe. Ceux qui sont debout suivent les mouvements sans réagir, sans même avoir à rechercher un nouvel équilibre. Anatole s'en étonne. Serait-il le seul à s'émouvoir ? Le monde bouge de plus en plus. Il chancelle et s'écroule. Anatole glisse sur le plancher. Il se réveille plus tard dans un lit. Il n'a pas rêvé. On lui raconte qu'il a eu un malaise. Anatole regarde la chambre. Tout semble calme. Il est cependant inquiet. Est-ce que ce monde ne va pas recommencer à s'agiter ? On essaie de le rassurer, vainement. Anatole se souvient des passagers du métro. Ils étaient dans un monde bien stable. Anatole, lui, était dans le sien, celui qui est attaché à lui, qu'il promène partout. Bien sûr, les deux mondes se ressemblent beaucoup, mais maintenant, Anatole doute. Le sien semble moins solide.
Revenir à soi, au propre comme au figuré, traverse un autre recueil plus récent. J'avais quelque chose d'urgent à me dire, paru en 2015. Ici, des forces contraires évoluent et malmènent notre auteur. À vous, Colette, j'aimerais savoir.
J'aimerais savoir si je suis corrupte. Je vois sans cesse autour de moi des individus a priori honnêtes qui, après s'être maintenus pendant des années dans la stricte légalité, succombent à l'attrait de l'argent. Qu'ils soient sportifs, politiques, entrepreneurs, on leur a proposé des sommes importantes en échange de tâches indélicates. Ils ont toujours résisté, cramponné à leur incorruptibilité, faisant naître sur le visage du tentateur un sourire de commisération. Certains se sont même forgés une notoriété de droiture. Et un beau jour, allez savoir pourquoi, ils craquent. Que leur arrive-t-il ? Pensent-ils soudainement qu'ils n'ont pas assez profité de la vie, se contentant jusque-là de recevoir régulièrement le salaire modeste de leur labeur quotidien ? Y pensent-ils peu à peu ? Dans ce cas, la révélation publique seule est brutale. La vie est courte. Le temps file, l'âge se fait pressant, il ne faut plus attendre. Personnellement, je n'ai pas encore été soumis à pareil dilemme. On ne m'a pas offert sur un plateau d'argent une montagne d'or pour services illicites. D'ailleurs, parfois cela m'inquiète. Me fait-on trop confiance ou pas assez ? Je souhaite vivement que la tentation se présente enfin, qu'elle soit forte. J'aimerais savoir si je suis corruptible. Et le plus tôt serait le mieux.
chez Guichati, il est souvent question d'humour, comme le soulignent à juste titre ses amis lecteurs Jean-Paul Giraud, Francine Caron, entre autres. L'humour, cette qualité évanescente, légère, si difficile à définir, au risque de la lester de théories pesantes, d'en cristalliser le mouvement aérien, d'en figer le trait fugitif. L'humour qui se gâte dès qu'on se l'approprie, qui se mue en pose dès qu'on essaie de la posséder. L'humour de Guichati ne faisait pas de lui un clown, disposé à épater la galerie, un bouffon ravi d'amuser son auditoire, un comique devant son public. La surprise, tirée de Anatole et son chat. Anatole commence ses vacances dans une grande maison où nombre de gens avenants vivent heureux en harmonie. Anatole, étonné de ce bonheur, passe ravi au milieu d'eux, distribuant ses sourires, échangeant des saluts. Ses mains suivent des arabesques dans les airs, ses pieds esquissent des pas de danse. On l'applaudit, on lui souhaite la bienvenue. Peu de temps après, un jour de pluie, il surprend sans le vouloir un groupe qui parle de lui. Ces gens le singent, chacun leur tour dans ces manifestations théâtrales de sympathie, et rit fort à ces spectacles. Le lendemain, bien que le soleil soit revenu, Anatole traverse la foule, la mine défaite, ses valises à la main. On lui demande s'il n'a pas appris une mauvaise nouvelle. Il acquiesce sobrement et quitte la maison. C'est la raison pour laquelle nous nous méfions de l'expression « avoir de l'humour », possession dont il serait tentant de faire état, de faire fructifier, de la faire capitaliser. Une attitude qui serait bien éloignée de ce que nous connaissons de notre auteur. L'humour n'est pas un métier, sauf pour ceux qui en font profession, comme les humoristes. Nous ne pensons pas non plus que Guichati, acteur principal d'un DVD « Guichati fait son cinéma », se soit laissé aller à cette vanité consistant à faire du Guichati, à se prendre pour référence au sérieux et à exploiter paresseusement des filons humoristiques sans chercher à se renouveler. Dans une lettre datée du 24 mars 2008, Jean Lansem, un de ses amis poètes, et féru d'humour aussi, lui écrivait « Ouvrons les guillemets, tu as compris que la drôlerie se devait d'avoir des nuances. L'humour qui se contente d'être rigolo est triste. Pas étonnant alors si la muse gueule. » Ça c'est dans un dossier de Comment Poésie numéro 50. Le pied de nez constitue une forme de taquinerie que l'on retrouve dans la poésie érotique de Guichati. Le charme et les charmes de la femme y sont décrits avec tact, sans appuyer ni insister. Dans Éclair de femme, notre ami nous livre ses coups d'œil espiègles, ses détails pris à la dérobée. Il dévoile, sans mettre complètement à nu, une intimité féminine, entrevue, partagée et éphémère. Ni cru ni pudibond, il préserve la part insondable du mystère féminin. Ici, nommer n'est pas mettre en pleine lumière, mais attiser le désir. Les femmes sont ainsi surprises, l'éclair d'un poème à plusieurs moments de la journée, dans différentes positions, dans diverses tenues, selon des parties de leur corps. Statues ou femmes fantasmées, elles invitent à la méditation, à la contemplation, au jeu coquin, à la complicité décomplexée. Riche de cela.
Elles portent, sans parfois le savoir, en craignant l'ignorance, aux alentours des hanches, au-dessus des genoux, le trésor. Elles sont riches de cela. Il est à elles. Elles nous le prêtent parfois. On joue avec, l'adore, le gravit, l'invoque, le prie, le caresse. Mais c'est elles qui l'ont.
Guichati nous a quittés le 7 avril 2020 et nous sommes tristes. Rappelons que notre ami est l'auteur d'un petit livre au titre énigmatique « La vie en raccourci », un titre repris dans son DVD « En Guichati fait son cinéma ». Et un livre qui en dise long sur l'existence tout en étant malheureusement de circonstances. Il ne s'agit pas d'une vie en rétrécie que l'auteur nous convie à lire, ni d'un manuel pour s'y orienter, du type « La vie en dit leçon », voire d'une velléité d'informaticien, écrire de la poésie concise à l'ère des autoroutes de l'information. Cependant, nous pourrions dire familièrement qu'il nous l'a fait courte, pour ne pas nous ennuyer, sans doute. Nous y voyons une manière de prendre congé, discrète et digne. Dans ce recueil, Guy Chatty, président d'Alamo, atelier de littérature assistée par la mathématique et les ordinateurs, témoigne. Il parle du temps, de la vie. Au-delà de la finesse du recueil, de son style ramassé, des mots de tous les jours, de l'humour, la vie en raccourci n'est pas une invitation à brûler les étapes. La simplicité se mérite. Elle nécessite d'évacuer les faux problèmes, d'accepter ce qui se présente, les erreurs, les complications, les âges de la vie et ses passages obligés. Tel qu'il a décrit, la vie suppose un point de départ, une fin et un entre-deux. L'auteur précise que s'inscrire dans ses limites est nécessaire, mais qu'il faut dépasser sa condition et se réaliser. Guy Chatty, s'il le pouvait, nous ferait partager le secret de l'après-vie. Peut-être que la mort n'est rien, comme disent les épicuriens, que l'on vive ou que l'on ne soit déjà plus. Peut-être est-ce quelque chose de très simple, et nous nous demanderons même pourquoi n'y avoir pas pensé plus tôt, si l'on voulait parler comme Vladimir Jankélévitch. La mort de Guy Chatty est beaucoup pour nous. Nous perdons un ami fidèle, bon, solide, dont un des messages revient par intermittence, avec force et douceur. La vie, c'est comment ? C'est tiré de la vie en raccourci. La vie, c'est moyennement intéressant. Au début, on s'y applique, croyant que c'est sérieux. On est petit, on vous cajole, on vous écrase. On fait des efforts démesurés et joyeux pour grandir vite, apprendre à l'école, aimer ses parents, ses frères et ses sœurs, ou bien les haïr sans qu'on s'en aperçoive, surtout pas soi-même. Car on nous regarde, les adultes, les copains, le Père Noël et Dieu. On cherche fébrilement sa place dans la cuisine, puis dans la société, où il faut se battre, paraît-il, sa place dans un cœur qu'il faut dénicher, dans un lit qu'il faut construire. On s'attelle à des tâches qu'on nous dit nécessaires, on y prend parfois goût, on s'y attache. On se réjouit, on s'alarme pour des incidents, on rentre dans des tourments, des maladies, des accidents, on en sort plus ou moins abîmé. On croit et on décroît, on aime et on n'aime plus. On va voir des pays, on en revient fatigué, ébloui. On se baigne, on se sèche, on est parfois beau, souvent laid. On fait tourner les petits trous dans la tête et admiratif, on les regarde tourner, de plus en plus vite, de plus en plus légères. Elles font des étincelles dans la mort noire qui veille. On élève des enfants, ils sont petits, on s'y mire, on se prend à leur jeu. Déjà ils sont grands et vont jouer plus loin. On découvre l'air, la montagne, la ville. On est traversé par l'art, on s'y perd, on s'y trouve. On joue avec les mots, tout seul, ou on les lance. On croit bâtir, développer, augmenter, projeter, changer. Énormément. On bavarde, on râle, on manifeste. Et c'est bon. On va cahotant pendant un certain temps, le pas plus lourd parfois, puis plus souvent. On découvre qu'on fait ce que veut le petit qui est resté en nous. On fait le bilan chaque année, puis le soir, puis le matin, enfin matin et soir. On n'a pas demandé à venir, et pourtant on est là à échanger du plaisir et des pleurs, des fleurs, des fruits, à user sa salive, son corps et sa vie, pour des trésors ou pour rien. L'âme éparpillée, cherchant ses points d'appui. La vie, c'est étonnant. Je vous remercie, je remercie mes deux lecteurs, on a fait une bonne équipe.
De la vie de tous. On vous remercie, Benjamin, pour cette présentation de l'œuvre de Guy, dont la finesse de l'expression témoigne de la profondeur de la compréhension, je crois. Vraiment. Voilà. Merci. Et on va poursuivre l'hommage par quelques lectures faites par les amis et sur des textes de Guy. Mais voilà, donc on va peut-être commencer par Janine. Je te laisse présenter le poème que tu vas lire.
C'est un poème que j'ai envie à sa mort. La trace de ceux qu'on aimait. Insaisissable. Une parcelle au tournant d'un chemin, sur la neige d'enfance, inusable, où s'éternise toute fêlure. Mais encore, par les rues, les cafés de Paris. Magnifique, ta voix au-dessus de nos tables, s'est-elle réfugiée dans celle des enfants? Peut-être dans ces lumières, sur l'immeuble qu'elles enchantent, ou dans le jardin que tu aimais, près de l'oreille tendre de ta femme. Ta trace, subtile clarté, chemine en nos mémoires, surfile les paysages, frémit au sein de ce printemps perdu. Tu es pollen et tu émerges, vivant, du chagrin de tes amis désolés. Plus tard, et peut-être aussi proche, notre affection et nos souvenirs, en un même sillage, se rejoindront dans un long poème impalpable, une trace vivante.
Je précise que ce beau poème est, est publié dans ce numéro d'intervention à haute voix, qui est un hommage à Guy Chatti, hommage à Guy Chatti et l'irrationnel. Ensuite, Colette.
Je vais vous lire l'article que Gérard Cléry a écrit pour ma revue. Au sujet donc du livre de Guy Chatti, j'avais quelque chose d'urgent à me dire. Gérard Cléry qui ne peut pas être là, qui vit toujours en Bretagne. Je précise aussi que Janine Baud, il y a deux jours au téléphone, me disait le regret bien sûr de ne pas pouvoir être présente auprès de nous. Donc Guy Chatti, j'avais quelque chose d'urgent à me dire. Quel meilleur titre pour ce livre dont l'auteur disait qu'il contient des poèmes de soi à soi en passant par le monde, qu'on pourrait pour certains qualifier d'autoportrait. On a beau faire, on ne disparaît jamais totalement derrière ces mots à soi. Citation. Je suis montée chez moi, j'ai sonné, personne, j'étais sortie. Ces vers, posés en quatrième de couverture, donnent le ton. Si comme l'écrivain Georges Duhamel, l'humour et la politesse du désespoir, la politesse de Guy Chatti est ici extrême. Humoriste au long cours, le personnage n'en connaissait pas moins des montées de colère froide ou sarcastique. Citation. Au début, on était gêné. On ne savait plus où poser les pieds. Maintenant, on s'habitue. Il y en a partout sur le trottoir, dans le métro, des gens couchés par terre. On marche dessus. Oh, on fait attention. Enfin, moi, personnellement. Et il serait trop facile de croire qu'il s'agit exclusivement des scènes de la rue parisienne. Pour quelqu'un qui joue de l'humour en virtuose, la corde est ici trop grinçante. Experte à retourner le gant de la réalité, cette écriture n'a généralement pas à prendre au premier degré. Elle peut porter l'habit d'arlequin, comme revêtir la tenue d'un authentique clown triste. Tandis que le public, le lecteur, s'autorise à rire ou à sourire sur la piste sous le projecteur, il y a un homme qui s'applique à contrôler les soubresauts de sa poitrine. Guy Chatti pouvait écrire « Je suis entré dans le coma, il n'y avait personne, c'était la nuit. Je voyais bien la porte par laquelle j'étais entré. Au jeu de l'absurde ou du double sens, le personnage sortait gagnant. Avec le recul, cependant, ces mots sonnent aujourd'hui douloureusement. Dans un temps où la corruption faisait déjà outrageusement floresse, il écrivait « Je souhaite vivement que la tentation se présente enfin, qu'elle soit forte, j'aimerais savoir si je suis corruptible et le plus tôt possible serait le mieux. » Guy Chatti, un moraliste provocateur, qui ne dit pas son nom. Lorsqu'Aragon parle du temps des hommes doubles, Guy Chatti, souriant, confirme « J'ai un double ». Nous avons chacun notre vie et nous retrouvons la nuit pour parler de notre cheminement. Comme ailleurs, ces mots de noctambule à sa table de travail, Une nuit, je fis un cauchemar proche d'une crise de folie. Tout d'abord, je m'évertuais calmement à mettre de l'ordre dans les mots. Mais il n'y a pas chez lui que des doublements avoués ou joués. Il peut choisir le moment présent, celui du voyage, pour un aveu. Citation encore. Je regrette d'être enfermée dans ce train pressé. La lumière a dans l'heure présente une douceur infinie. M'étreint cette beauté éphémère à portée de main qui m'échappe. Chez lui encore, la gérée névosité du personnage qui prêtait volontiers sa voix aux amis lors des lectures en public. Comme comédien, quand j'entre sur scène, je suis tellement horrifiée par les regards des spectateurs avides et convergents vers moi que je me dis « Que fais-tu là ?» Sensation déclenchée par l'urgence de la chose à dire ou à lire, sans déchoir, à moi, une fois encore, de se dédoubler et que finalement volent les mots jusqu'aux oreilles de l'éditoire. Celui qui avait quelque chose d'urgent à se dire, à nous dire, est mort à l'hôpital après avoir croisé le chemin d'une messagère d'infortune, une tousseuse, qui lui a transmis un virus appliqué depuis de longs mois à dévaster les horizons. Ses proches, ses amis n'auront pu l'accompagner pour son dernier voyage.
Je vais proposer un texte. J'aime beaucoup certains textes d'humour noir. Ça fait penser au fameux monsieur Plume de Michaud. Donc, pardon, le texte compartiment. Il était assis dans le coin fenêtre, sens de la marche. Les places situées à côté de lui et en face de lui étaient libres. Toutes les autres étaient occupées. Il sortit un journal de sa poche. Ce geste fit lever toutes les têtes qui regardèrent le journal. L'homme ouvrit le journal en deux. Ils regardèrent l'homme. Celui-ci, inquiet, hésitait à poursuivre l'action commencée. Il sentait les regards sur lui et n'osait pas lever les yeux vers les autres voyageurs du compartiment. Il déploya quand même son journal. Par un imperceptible mouvement des têtes, la pression des regards se fit plus forte. L'homme peut. Il se tassa dans son coin et ne bougea plus. Les autres revinrent à leurs occupations précédentes. Lecture, somnolence, croisement et décroisement des jambes. L'homme, qui avait un grand désir de lire son journal, amorça l'ouverture d'une page. Au léger bruit qu'il fit, les autres se levèrent ensemble d'un bond. L'homme inspira vite et leva la tête vers eux, tout en la cachant à moitié derrière le journal. Le premier d'un coup éventra les feuilles. Le deuxième frappa l'homme au visage. Ce fut la curée. Pour finir, l'un des voyageurs ouvrit la fenêtre et plusieurs autres jetèrent dehors le papier froissé, déchiré et l'homme brisé. L'air entrait violemment dans le compartiment et le refroidissait vite. Un voyageur referma la fenêtre et ils se rassirent tous à leur place respective.
Accentue les sonorités. L'émotion retenue peu à peu se libère, délivre le message, le fait vibrer au cœur des mots, sans fioriture, ni déclamation, pudiquement. Alors, Guy Chatty est présent parmi nous, présent bien entendu par ses poèmes très courts, beaucoup plus dans Mes navires, une anthologie de poèmes dont vous avez parlé. 1979-2010, présent avec son attention minutieuse, vous en avez parlé aussi, accordée au monde, à tous les êtres, à la nature, comme dans Puits de lumière ou encore L'araignée. Puits de lumière, c'est maintenant, nous sommes dans l'automne, forêt d'automne. Les larmes coulent doucement sur la joue brune des arbres. Bruissement dans le silence. Pleut-il? Moment du regard. Non. Tombent les feuilles et balbutient. Chacune dans sa chute est un miroir qui scintille. Puis de lumière. Il y a une concentration extraordinaire. L'araignée, très belle observation, peu de choses dans ce tout petit poème. L'araignée, sur le mur blanc, soleil d'enfant, couronne de perles noires d'où rayonnent de longs cils cassés, comme un signe léger d'écriture posée, immobile, en éveil. Mais son regard minutieux n'exclut bien entendu pas le tragique. Le tragique dans la nature. L'aile. Je prends deux. L'aile dorée au vent battait fébrile à l'abeille encore attachée. Battait forcée, inutile. Accrochée à l'essuie-glace, l'insecte voler mort plus vite que vivant. Un regard aussi qui fut le narcissisme qu'une vanité, qui se tourne vers les autres comme dans Derrière le miroir, page 4. Derrière les miroirs, nous nous contemplions avec suffisance. Des êtres lumineux, les poings fermés par la rage, raclaient le teint et brisaient nos images, nous obligeant à les voir exister. Un regard lucide aussi sur la mort et la séparation, comme dans Plus jamais, page 50. Plus jamais. C'est toujours. L'éternité séparait tout. Séparait tout l'éternité. Adieu. Regard clos par les paupières. Corps corrompu d'un coup en marbre froid. C'est elle. Ce n'est plus elle. Le tout. Presque rien. Contraction convulsive du temps. La libellule, porteuse d'âme, brille dans un seul rayon. Et puis, complexité d'existence, dans le poème Complexité, je ne sais pas si on l'a pas lu d'ailleurs, mais c'est un très beau poème sur le vide, celui de l'univers. J'éclate dans une feuille, poisson tranquille, je me meurs à couler sève jusqu'aux racines. Sur l'écorce, sur les branches, jusqu'où le silence des cellules, la profondeur des vides, mais aussi très vite chez Bichati, à milieu de tout lyrisme larmoyant, l'humour dont on a parlé. Un humour pas sans rire, lucide, sans amertume. Et ici, dans ce texte, au cheval nu, à tantinet érotique. Très court texte. Un texte qui nous ramène à l'été. Une femme en maillot de bain, debout près d'un cheval blanc. On voit alors que le cheval est né.
Ça, c'est du bon truc. Ça fait l'objet d'une expérience. Parce que Laurence et Réza a fait une petite peinture sur ça. Et ça a été présenté à l'Université d'Angers.
L'Université d'Angers.
D'Angers.
Alors, Jeanne dit que ce poème a fait l'objet d'un. Dans le cadre d'une exposition d'un tableau.
Comment il s'appelle? Avec quelqu'un qui.
à l'université d'Angers. Mais elle ne se rappelle plus le nom.
C'est quelqu'un qui enseigne, Cécile Danton, qui enseignait.
D'accord.
C'est pas pour elle, c'est, je ne sais plus.
Il y a une d'accord.
Assez fort, un collectif de faits. Et ce texte a été choisi avec une peinture.
En tout cas, merci beaucoup Bernard pour ce déjà d'avoir rappelé la voix de Guy qui nous manque, oui, et le lecteur exceptionnel qu'il était et pour Aliénor, et puis pour cette analyse précise de ses poèmes. Voilà, alors, oui, Jean-Noël.
Aussi les excuses de Francine Caron, j'ai bien compris.
D'accord.
Il y a un renseignement, Michel Chatil, bon, son conférencier nous a dit qu'il a eu peu de prix dans sa carrière littéraire. Et il en a eu un, qui n'a pas été rappelé ce soir, par la Société des poètes français. À l'époque, j'en étais le vice-président. Et il n'était pas connu, la Société des poètes français. Et je l'avais. Avoir le prix, je ne sais plus si c'était le prix Victor Hugo, mais donc, et ce prix, bon, je ne pensais pas qu'il en ferait que ce serait quelque chose qui le toucherait beaucoup, mais finalement, il en a été très touché, et à chaque fois que nous nous rencontrions, eh bien, il nous disait, hein, c'est vous qui m'avez fait avoir ce prix de la Société des Poètes Français. Alors je suis très heureux d'avoir contribué un petit peu à illustrer votre cher ami. Voilà, j'ai dit.
Est-ce que quelqu'un veut intervenir, Nicole?
Je voulais rappeler le dernier jour où nous avons eu la joie de voir Guy au Café de la Mairie, donc en février. Il présentait ses livres, un dernier livre.
Grâce à Emmanuel, Sylvestre Clancier.
Voilà, avec Sylvestre Clancier qui le présentait. Et c'était un moment très heureux où Guy était en pleine forme. Hein. Vraiment, on l'avait trouvé. Malgré les ennuis de santé qu'il avait déjà eu précédemment. C'était un très beau souvenir. On le garde comme ça, avec sa belle voix et son sourire et cet enthousiasme. Vraiment, c'était un très beau moment. Et puis nous l'avions invité au Mirabeau il y a longtemps, avec Nicole Barrière, dans notre association du côté du Grand Mirabeau. C'était aussi des moments très heureux.
Faut garder
cela.
Merci. Oh. Pardon. Rebecca.
J'ai eu le plaisir de voir dans un comité de lecture de poésie sur scène. Et c'était l'époque où il y avait d'autres personnalités qui malheureusement étaient une de mes très grandes amies et qui est décédée. Et je dois dire que c'était quelqu'un qui avait du tempérament, du caractère, et on a eu des choses qui étaient directes, parce que ça ne lui plaisait pas écarter, mais il savait très bien revenir après et reconnaître quelqu'un. Je lui dis, mais c'est pas contre toi que ton écriture, j'ai toujours reconnu. Il protégeait quelqu'un qui était un peu androgyne. Pas androgyne. Oui, c'est ça, non? Qui était un peu. Contre les. Enfin, qui avait misogyne. Des mots sur les femmes.
Misogyne. Misogyne. Misogyne.
Il était misogyne, il protégeait un jeune qui voulait s'amuser certainement en étant un peu misogyne. Après, j'ai vu.
D'accord, mais ça n'était pas le cas de Guy.
Vous connaissez. Donc, et je dois dire que vous prenez le. Non, mais. savoir tout ce qu'on faisait. Hein. Le comité de lecture, on faisait des trajets de Paris, Gare-Saint-Lazare à Saint-Cloud.
Bien, merci Rebecca pour ce témoignage.
Et j'en garde le meilleur souvenir parce que je savais que c'était quelqu'un qui était pour l'écriture de recettes et j'aurais pu m'appuyer sur lui.
Oui.
Je ne l'ai jamais fait.
Voilà. Si personne ne veut plus prendre la parole, je voudrais terminer cet hommage à Guy en lisant un beau poème de Claude Albared qui mettra un signe de lumière. Le poème s'intitule « Le signe ». Le signe agit par son absence comme un ruisseau qui trace un rêve entre les pierres et sans mystère crée le chemin. Le signe, comme un oiseau de la terre au soleil, disparaît dans le vent et sans comprendre crée le mystère. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir été présents pour cet hommage à Guy et avant de terminer, je suis désolée parce que j'ai oublié le papier sur lequel j'avais pris la note, mais Jeanne m'avait demandé à propos de le choc du clic, voilà, de dire qu'il allait être présenté au marché de la poésie, n'est-ce pas, par Vanda, par les éditions Transsignum. Donc Vanda va l'éditer. Hein, il est édité.
Il est sorti au plein pour tout à fait début du confinement.
C'est ça.
Donc peu de gens en ont entendu parler. Donc, apparemment,
ouais. Benjamin en a parlé. Le choc du clic. Ouais. C'est un texte de Guy. Enfin, Guy a illustré, si j'ai bien compris, une cinquantaine de photos.
Une photo par jour pendant 6 mois
d'une artiste et donc l'ouvrage sera disponible aux éditions Transsignum au marché de la poésie. Voilà.
Sylvain Cancer l'a bien parlé en février,
hein, parce
qu'il était sûr que c'était et après le confinement,
c'est ça. Voilà, donc Jeanne insiste pour dire que c'est un très beau travail, donc je vous le recommande aux éditions Transsignum et il sera disponible au marché de la poésie. Le choc du clic.
Est-ce que je peux faire une annonce ?
Bien sûr, oui.
Le bar à terre levant, c'est un festival que j'organise, c'est à Malakoff, qui s'appelle Festival Bâton de Parole. Le 21 novembre, il y aura un hommage à Guy Chatty, avec des témoignages de Béatrice Colette et des vidéos de Philippe Masson. Donc j'ai quelques programmes à distribuer.
Les vidéos
voilà, qui vont vous servir.
Chatif et son cinéma.
Voilà.
Donc vous retenez le 21 novembre à Malakoff. 21 novembre à Malakoff, puis il y aura également un hommage à Guy Chatty au marché de la poésie le 21 octobre aux éditions Transsignum à 16h je crois, enfin c'est 16h, hein, voilà le 21 octobre. Novembre, pardon.
Pendant les deux, 21 octobre, au
oui,
marché de la poésie,
c'est ça.
21 novembre à Malakoff.
Oui,
et on va continuer tous les 21 du mois.
21 novembre, c'est un dimanche.
Oui, c'est ça.
Et le 21 octobre, c'est un jeudi. Oui, jeudi. Voilà. Donc merci beaucoup. Alors je vous annonce la séance du 13 novembre qui sera nous recevrons Christian Pelletier qui est membre du comité Aliénor et qui nous parlera de Georges Perros. Pardon. Voilà. Donc merci encore de votre présence et un immense merci renouvelé à Benjamin Chinour.